Mamzelle Bulle. Mamzelle Bulle sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, 18h sur Radio Campus Paris, l'heure de votre dose hebdo de bande dessinée en mode audio. Et cette semaine, c'est à Aurélien Ducoudray que j'ai tendu mon micro. Il vient de publier l'anniversaire de Kim Jong-il aux éditions Delcourt avec Mélanie Allag au dessin. La dictature de Corée du Nord vue à travers les yeux d'un enfant de 8 ans, Jun Sang, né un 16 février, tout comme son cher dirigeant Kim Jong-il.
C'est un petit peu servir d'un porte-parole qui est surtout pas soi en fait. C'est un véhicule ce petit garçon qui nous permet d'aller en Corée du Nord et de raconter aussi bien des choses sociales, des choses politiques, mais surtout du quotidien. Mais oui, c'est un... Après, il ne faut pas tomber dans le piège que ça soit juste un véhicule. Il faut aussi qu'il existe ce petit garçon. Il faut l'incarner, il faut qu'il soit crédible et qu'on ait envie de le suivre. Mais au départ, oui, c'est plutôt vu comme un vecteur. Après, moi, je m'y suis attaché dès la deuxième case, donc je ne voyais plus du tout ça comme un vecteur. Quoi.
Et comment est-ce qu'il est arrivé, ce petit garçon? Est-ce que c'était l'envie de parler de la Corée du Nord et donc est venue l'idée de passer par la création de ce personnage? Ou est-ce que c'est venu autrement?
En fait, il y a eu plusieurs trucs. Je suis tombé sur un livre qui racontait l'histoire d'un jeune homme qui était né dans un camp de concentration en Corée du Nord. Et du coup, tout était extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que c'était le pire du pire. Enfin, c'était vraiment pire que l'enfer, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce témoignage-là? C'est parce qu'il est vraiment trop dans le pire. Je me suis dit, peut-être qu'un simple gosse à Pyongyang, ça serait aussi efficace pour parler de la même réalité. Et après, il y a eu un autre truc, c'est que je me suis dit que ce qui est intéressant avec un enfant, c'est qu'on ment tout le temps aux enfants, en fait. Même nous aussi, dans notre société, on raconte vraiment des histoires. Le Père Noël, par exemple, on ment aux enfants pendant très longtemps, quoi, avant de leur dire qu'il n'existe pas.
Ah bon ?
Ouais, mince. Vu que mon fils n'écoute pas. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était de se servir de cet enfant qui croyait tout dans un pays qui mentait à tout le monde, en fait.
Et comment est-ce que tu, une fois que tu as eu l'idée de ce sujet, la volonté de parler de ce pays, comment est-ce que tu as créé finalement la famille et l'univers de ce petit garçon?
En fait, toute la substance, je l'ai trouvée dans des livres de témoignages de Nord-Coréens qui avaient fui leur pays, dont le témoignage avait été recueilli par des journalistes, puis les documentaires, etc. J'ai vraiment épluché le plus possible, mais pas pour avoir des grandes informations pour dire que la Corée du Nord, c'est une dictature, etc. Mais c'est vraiment pour choper des trucs du quotidien. Des toutes petites choses. Il y a un passage, par exemple, dans la famine, pendant la famine des années 90, où la maman, elle fait bouillir les nouilles trois fois plus longtemps pour que les nouilles paraissent plus grosses. Ben ça, c'est... au lieu de raconter, faire une thèse politique sur ce truc-là, juste quatre cases racontant cette histoire du plat de nouilles, je pense que c'est bien plus parlant qu'une thèse, une thèse très étayée, quoi.
Et ce qui est très parlant aussi, c'est justement à la fois quand on dit on ment tout le temps aux enfants, mais c'est cette naïveté et ce côté, la seule personne qui est importante, c'est notre dirigeant, il n'y a personne d'aussi important. Et c'est de voir à quel point même dans les jeux d'enfants, ça se répercute.
Et ce qui est aussi incroyable, c'est que j'ai eu pas mal de récits d'enfance, en fait, de gens qui avaient réussi à s'évader de la Corée du Nord. Et c'était vraiment un truc à part. Ils racontaient leur fuite, ils racontaient toutes les brimades qu'ils avaient subies. Mais l'enfance, c'était vraiment une espèce de bulle. Et d'un seul coup, le ton changeait. C'est-à-dire qu'on était dans un truc qui était assez doux, très très bienveillant. Et ça faisait vraiment un contraste très très fort. Et du coup, la première fois que je le sais, je me suis dit, c'est quand même étrange. Et puis après, j'ai trouvé plein de fois. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut le raconter. Le ton, il est là, quoi. L'enfance dorée qui petit à petit s'effrite pour devenir quelque chose de cauchemardesque, quoi.
Puis c'est de voir, quand tu dis l'enfance dorée, c'est des choses qui nous semblent aberrantes en le lisant et qu'on voit que lui le prend totalement comme quelque chose de normal.
Oui, c'est du premier degré. Mais après, si on regarde dans nos sociétés, nous aussi, on croit à certains trucs qui sont aberrants, je pense, pour d'autres sociétés. Enfin, moi, je suis toujours étonné, c'est peut-être Moi, j'ai mon permis de conduire, mais je suis toujours étonné que tout le monde continue de rouler à droite. Je me dis, qu'est-ce qui nous empêche d'un seul coup d'être devenir à moitié fou et de rouler n'importe comment et de tout casser ? Je trouve que c'est un miracle qu'il y ait une route en face là, de l'hôtel. C'est un miracle que tout ne soit pas explosé dans tous les sens, quoi. Ces espèces de règles implicites que l'on suit, c'est un peu comme des petites barrières invisibles qu'on porterait et qu'on ne dépasse jamais, quoi. Moi, je suis toujours complètement incrédule par rapport à ça, quoi.
Et ce qui est intéressant aussi dans l'album, il y a énormément d'informations, mais il y a aussi la bande dessinée de propagande.
Mais en fait, l'album lui-même, déjà, il a un visuel presque de propagande, puisque Mélanie Allag, qui a réalisé toute la partie graphique, on a décidé tout de suite de faire exactement le même graphisme que les petits livres de propagande. Je sais que Mélanie, elle avait beaucoup de livres chinois et coréens, et du coup, elle s'est vraiment inspirée de ça, quoi. Et après, ça collait à son dessin naturel, donc c'est ce qui était intéressant. Mais le soldat Wang, ça nous permettait de faire une bande dessinée dans la bande dessinée et de créer notre Superman à nous, quoi. Après, il existe. Il n'existe pas pour de vrai, mais il y a d'autres personnages qui existent qui sont certainement bien plus forts que ce soldat Wang. Je pense que nous, on y allait vraiment doucement avec le soldat. C'est juste un modèle qui étouffe des tigres à main nue, un petit peu too much. Mais je pense qu'en vrai, les héros purs propagandistes sont bien plus costauds que ça, quoi. Bien plus impitoyables, surtout.
Et comment est-ce qu'après, tu as construit le passage, justement, on dit, il y a la bulle de l'enfance, et puis il y a le moment quand il cherche à passer en Chine. Combien de temps je reste dans cette bulle de l'enfance pour réussir à instaurer vraiment, qu'on comprenne, qu'on s'attache au petit garçon, et à quel moment le récit bascule ?
Pour le coup, on a fait une introduction qui est assez longue. On a mis presque 2 chapitres, ça correspond peut-être à une trentaine de pages, où on raconte presque rien, en fait, que des choses du quotidien, où on l'accompagne à l'école, ou dans ses travaux des champs, ou dans son quotidien avec sa famille. Mais ce rythme volontairement lent, après, il y a des brisures dans l'histoire qui font office aussi de révélations que lui, il apprend sur le régime, des choses qui se cassent, et qui va faire que petit à petit, il va arrêter de croire à ce régime, et il va petitement se révolter. Mais pour le rythme, je dirais que... En fait, le rythme, il s'est imposé un petit peu tout seul et assez vite, quoi. Étant donné que c'est lui qui parle, c'est lui qui mène le récit, en fait. Moi, j'avais pas l'impression d'écrire grand-chose, en fait. Souvent, je sentais que le récit se faisait presque un peu tout seul, quoi. Une fois que le petit personnage est lancé, on suit, quoi.
Et volontairement, même si on voit le camp, il ne reste pas forcément très très longtemps. C'était aussi volontaire pour pas perdre cette certaine légèreté qu'il y avait dans l'album.
Ouais, surtout que le passage du camp, c'est sordide, quoi. Le passage du camp, c'est que des choses difficiles les unes après les autres. Après, je sais pas si... je pense que c'était pas nécessaire de passer autant de temps, même si on sent qu'il passe quand même un petit peu de temps dans le camp. Mais moi, ce qui me plaisait plus dans le camp, c'était de montrer que même si on est dans le pire endroit du monde, lui, il a quand même des accès de normalité. Quand il arrive et qu'il se dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Il y a un petit camarade qui dit « on va à l'école, c'est l'heure d'aller à l'école. » Et lui, il se dit « ah bon, il y a une école ?» Ça ne doit pas être si mal s'il y a une école, quoi. Donc il y a toujours ce côté... on ne croit pas à ces trucs incroyables. S'il y a une école, ça existe, donc ça peut, c'est réel, quoi. Ça peut aller. On peut s'en sortir s'il y a une école, quoi.
Et il y a des rencontres. On peut tomber amoureux.
Ouais. Après, moi, j'avais lu pas mal de littérature sur les camps de concentration où ça choquait beaucoup de gens quand les types, ils exprimaient des moments joyeux. Il y a Primo Levi, il y a Imre Kerzetz, qui, je crois que c'est Kerzetz qui dit « moi, j'ai été heureux à un moment dans le camp de concentration ». Et ça avait fait scandale, quoi. Et moi, je trouve ça fabuleux parce que oui, il y a bien des moments où t'as dû être heureux. Donc, après, c'est qu'un enfant. Il est obligé de tomber amoureux de cette gosse, quoi. Elle est Mimi, donc voilà, il est obligé.
Dans les différentes histoires que tu écris, on part souvent à l'étranger, justement, on découvre pas mal de pays. Il y a toujours ce goût de découvrir un pays, et en même temps, tu racontes l'histoire que tu as racontée. Est-ce qu'il y a cette envie aussi d'aller au-delà, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration de se dire, je me suis documenté pour faire cet album, et j'ai envie de, pas de tout connaître, parce que c'est pas possible, mais de se dire, d'explorer encore plus.
C'est pas évident d'arrêter une histoire, en fait. C'est vrai que sur l'anniversaire de Kim Jong-un, on aurait pu continuer et raconter encore et encore. Mais moi, je faisais de la photographie avant et j'avais le même problème. Quand on est sur un reportage au milieu d'une situation, on passe pas mal de gens avec les gens. Et à un moment, pas mal de temps avec les gens, pardon. Et à un moment, faut arrêter cette mécanique de reportage et rentrer un petit peu chez soi. Donc quand t'as un billet d'avion avec une date, c'est facile. Sinon, tu le loupes et c'est foutu, donc tu peux rentrer chez toi. Mais des fois, les scénarios, ils continuent un peu plus longtemps. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, en dédicace, il y a une jeune femme qui m'a amené un album que ça faisait super longtemps que je n'avais pas vu en dédicace. C'est un album de chez Sarbacane qui s'appelle 16 Kennedy Express. Et c'est un album qui a été retiré de la liste de, parce qu'on n'en vendait plus du tout. Donc l'album, il disparaît, quoi. Et elle me l'a amené toute contente. Et du coup, moi, je n'avais jamais fait ça en dédicace, mais je lui ai fait une page de scénario, en fait. Et une façon à moi de presque de dire au revoir au perso, quoi. Donc c'était plutôt chouette, quoi.
Et du coup, tu as eu du mal à le quitter, ce petit garçon qu'on quitte alors qu'il a 16 ans, 15-16 ans?
Non, j'ai pas eu de mal à le quitter, contrairement, parce que je pense qu'on l'a mis sur des rails pour qu'il se débrouille tout seul, quoi. Maintenant, non, je pense qu'il a fini de raconter son histoire. Ouais. Non, j'ai pas eu de mal à le quitter, au contraire.
Et c'est vrai que son évolution, elle est intéressante, parce que quand ses parents lui révèlent l'histoire de sa famille, la première réaction, c'est rejet immédiat. Et finalement, assez rapidement, il va prendre la mesure de finalement l'histoire et de savoir ce qui se passe réellement. Il est quand même très mature, très vite.
C'est vraiment un récit initiatique, hein. C'est-à-dire après un paquet d'obstacles, il finit par trouver sa place, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que sa place, il la trouve presque malgré lui. Disons que c'est des événements comme la famine ou comme le fait d'avoir une descendance pas bonne font qu'il est obligé de faire un choix au début sans vraiment l'assumer. Et sur la fin, enfin, il choisit d'assumer ce qu'il peut devenir, quoi.
Est-ce que c'est quelque chose, c'est vrai qu'on se dit quand on lit l'album, ça nous rappelle finalement ce qui se passe en Corée du Nord, alors que c'est un peu loin pour quand on est en France, on n'y pense pas tous les jours à ce qui se passe. C'est aussi un moyen de, même au-delà de l'aspect narratif pur, du plaisir de raconter l'histoire de ce petit garçon, de dire « Eh oh, faut pas oublier tout ce qui se passe ailleurs ».
Je sais pas, moi quand je l'écris, je me réfléchis pas forcément à tout ça. Après, ce qui est marrant dans votre question, c'est que les gens de l'ambassade des Corées du Sud ont demandé à nous rencontrer pour discuter de l'album. Et il y avait donc un représentant de l'ambassadeur et un journaliste. Et à un moment, le journaliste dit, mais il fait, ce qui est incroyable dans votre bouquin, c'est que moi, j'ai appris plein de choses. Je me suis dit, ah bon, moi j'habite dans l'Inde, en plein centre de la France, dans un trou perdu. Moi, je t'ai appris des choses sur la Corée du Nord, j'ai jamais mis les pieds, c'est incroyable. Il m'a dit, non, mais c'est pas ça, il y a plein de trucs qu'on avait oubliés et on n'y fait plus attention, en fait. On les voit plus, ces Coréens du Nord. Et là, tu te dis, waouh, si même eux, ils les voient plus, il n'y a plus vraiment grand monde qui les regarde, quoi.
Et ce qui est aussi fou, c'est de voir à quel point ça n'a pas forcément évolué dans ce qui se passe, en tout cas dans ce qu'on en perçoit à nous, par rapport aux dirigeants de la Corée. On a l'impression quand même d'une...
Alors, moi, je pense que ça a évolué, mais aussi, il y a le fait que je pense qu'on aime bien conserver cette Corée du Nord dans ce rôle-là, quoi. C'est-à-dire que Saddam Hussein, il n'est plus là, Ben Laden, il a été éliminé, les grands méchants qui restent maintenant, c'est Daesh et la Corée du Nord. Et avec la Corée du Nord, on a le méchant ultime. Lui, il est bon, il a tout le costume, les armes, tout est parfait. Et je trouve que ça nous empêche un petit peu, justement, d'aller voir les changements qu'il y a eu, parce que notre histoire, elle se passe sur une période de 10 ans, entre fin des années 80 et puis milieu des années 90. Mais il y a plein de trucs qui ont complètement changé. Les nouveaux moyens de communication, je crois que les gens ont des portables, Internet est un petit peu arrivé, même s'il est très contrôlé. Les modes ont changé. Moi, j'avais vu un truc où les mômes, ils avaient des rollers et des rollers, des espèces de planches électriques. Là, et on se dit, c'est pas la Corée du Nord, ça, on est à Paris ou quoi. Et du coup, je pense qu'on cantonne vraiment cette Corée dans cette image qu'on s'en fait déjà, quoi.
Merci beaucoup.
Merci.
L'anniversaire de Kim Jong-il, c'est d'Aurélien Ducoudray et Mélanie Allag. C'est publié chez Delcourt. Mamzelle Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver le podcast de cette chronique sur le www.radiocampusparis.org. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre autour de la bande dessinée. D'ici là, je vous souhaite plein de belles lectures.